discrétation que comme la dernière fois, il fait assez mal. Que cette fois-ci, j'arrive à me faire entendre. Un peu plus. Bon, je vais faire mon mieux. Bonjour. Simonie, venez donc un peu plus près. Alors, maintenant, bon, de ce que j'appelais tout à l'heure le mixage, les communications qui ont pu se faire entre mon public ici et ce groupe Saint-Anne. Je suppose que maintenant, ils sont unifiés. Un jour ici, d'un prédicat formé à votre usage, nommément lumière. Nous sommes passés la dernière fois à Sainte-Anne, au terme d'une autre facture qui se trouverait du terme de la forme unie. Donc, je vous ai parlé, ce que j'ai avancé la dernière fois à Sainte-Anne, c'est le pivot qui se prend dans cette forme. Qui se fonde, mais des fondes. Fondez-le, que ce soit fondu. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça siffle.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ils vont mieux arrêter le micro. Ça siffle. Le micro siffle. Ça siffle.
Oui. Mais
cette forgerie du terme. Une niée, comme un verbe qui se conjugue. Et d'où nous pourrions avancer. Nous sommes, pour ce qu'il en est, de la fonction. De la fonction représentée dans l'analyse par le mythe du père, P-E-R-A. Il unit, U-N-E. C'est ça que ceux qui ont pu réussir à entendre à travers les pétards, le point dans lequel j'aimerais, je parle aujourd'hui, vous permettre, disons, d'accommoder. Le Père unique, donc. Dans le mythe, il a ce corps-là des toutes. Toutes les femmes. C'est là, si l'on suit mes instructions quantiques, Q-A-N-T-Q-E-S, il y a lieu d'introduire une modification. Il les unit, certes, mais pas toutes, justement. Ici, je touche à la fois. Je suis n'est pas mon cru à dire. À savoir la parenté, la logique et du mythe, ça marque seulement que l'une puisse corriger l'autre. C'est du travail qui reste devant nous. Pour l'instant, je rappelle putain, que avec ce que je me suis permis d'approximation du Père, avec ce que j'ai inscrit de l'épater, vous voyez que la voix qui rejoint à l'occasion le mythe avec la dérision ne nous est pas étrangère. Ça ne touche en rien au statut fondamental des structures intéressées. c'est amusant, parce que, comme ça, il y a des gens qui découvrent sur le tas. Donc, je peux bien dire, enfin, de ma place, que c'est un peu général pour l'instant. Toute cette effervescence, n'est-ce pas, cette turbulence qui se produit de termes comme le signifiant, le signe, la signification, la sémiotique, tout ce qui occupe pour l'instant. La scène des curieux, des singuliers retards qui s'y montrent, une très bonne petite mesure, enfin pas plus mauvaise qu'une autre, dans laquelle tu vois surgir ça sous le titre de l'atelier d'écriture, un article, mon Dieu, pas plus mauvais qu'un autre, qui s'appelle La Gomie. Vous entendez, il s'appelle l'agonie du signe. C'est toujours très touchant, l'agonie. Agonie veut dire lutte, mais aussi agonie veut dire qu'on est en train de tourner l'œil, alors l'agonie du signe se fait. Ça fait pathétique. Je préférais être plus pâle, pathétique que tout cela tourna. Ça part d'une invention charmante, de la possibilité de forger pour ça un nouveau signifiant. Qui serait celui de formidable. L'effet, c'est formidable. Et on commence par poser la question de quel peut bien être le statut de formidable. Moi, j'aime bien ça, d'autant plus que c'est quelqu'un qui t'emmène. Et très averti depuis longtemps d'un certain nombre de choses que j'avance et qui pour, en somme, au début de cet article, se croit obligé de faire l'innocent, à savoir hésiter à propos formidable, à le ranger soit dans la métaphore, soit dans la métonymie. Et dire qu'il y a quelque chose qui est négligé donc dans la théorie jacobsonienne, c'est celle qui consisterait à emboutir des mots les uns avec les autres. Mais il y a longtemps que j'ai expliqué ça, j'ai écrit l'instance de la lettre exprès pour ça, S sur petit S avec le résultat, hein, parenthèse, effet de signification. Le déplacement, c'est la condensation, c'est très exactement la voie par où on est fait. On peut créer ce qui est quand même un petit peu plus amusant et utile que formidable. On peut créer. Puis ça sert à quelque chose. À vous expliquer par une boîte, n'est-ce pas, ce que j'ai tout à fait renoncé à aborder par celle des noms du Père. J'ai renoncé parce qu'il m'en a empêché à un moment, et puis c'était justement les gens à qui ça aurait pu rendre service qui m'ont empêché. Ça a rendu service dans leur intimité personnelle. C'est des gens particulièrement impliqués du côté du Père. Il y a une clique très spéciale dans le monde, comme ça, épinglée, une tradition religieuse. C'est eux que ça aurait aéré, je ne vois pas pourquoi, me dévouerait spécialement à ceux-là. Nós é que temos que estudar. Qu'est-ce que je crois à aborder? Comme il a pu justement pour éviter sa propre histoire, Al-Shaddai en particulier, c'est le nom dont il se désigne, celui, non, ce qui parle. Ben, il s'est apporté sur les livres, il a fait quelque chose de très propre en soi. Un peu aseptique. Il ne l'a pas poussé plus loin, mais c'est bien là ce dont il s'agit. On laisse passer les occasions de reprendre ce qu'il dirigeait et ce qu'il préfère maintenant. Le psychanalyste soit à sa place dans son discours. La chance est passée, bien sûr. Je l'ai déjà dit, en sorte, dans l'avion là qui me ramenait, je ne sais où, qui me ramenait Milan, qui revient hier soir. Bon, je ne vais pas apporter le truc, c'est vraiment. Je vais vraiment très bien. Je suis dans l'avion, dans un truc qui s'appelle Atlas, et qui est distribué à tous les voyageurs. Bah, la compagnie Air France. J'ai un très très joli petit article. Heureusement que je ne l'ai pas, je l'ai oublié chez moi. Heureusement que je m'en ai entraîné à vous en dire des passages, et il n'y a rien dans le milieu comme dans un pays. Il n'y a rien dans le milieu comme ça. Enfin, il y a des psychologues, et les psychologues de la plus haute volée, j'espère qu'ils s'emploient aux Amériques à faire des enquêtes sur les rêves, parce que on enquête et on s'aperçoit enfin que c'est très rare les rêves sexuels. Il rêve de tous ces gens-là, il rêve de sport, il rêve de papillage, il rêve de chute. Enfin, il n'y a pas une majorité écrasante. Tout résulte. Comme ce qui est la conception générale, nous dit-on dans ce texte de la psychanalyse, c'est croire que les rêves sont sexuels, eh bien le grand public qui justement est fait de la diffusion psychanalytique, mais aussi vous êtes un grand public. Le grand public, naturellement, va être défrisé. Et tout le soufflet va tomber comme ça, éclater dans le fond de la casserole. C'est quand même curieux, en fait, que personne, en somme, dans ce grand public supposé, car tout ça, c'est de la supposition. Enfin, c'est vrai que, avec une certaine résonance, peut-être que les rêves faisaient ça. C'est ce qu'aurait dit Freud, qu'ils étaient tous sexuels. Il n'a jamais dit ça, justement. Jamais dit ça. Il a dit que les rêves étaient des rêves de désir. J'avais dit que c'était des désirs sexuels. Donc, comprendre le rapport qu'il y a entre le fait que les rêves soient des rêves de désir et cet ordre du sexuel qui se caractérise par ce que je suis en train d'avancer, parce qu'il m'a fallu le temps pour l'avancer, pour ne pas jeter le désordre dans l'esprit. Ces charmantes personnes, n'est-ce pas, qui, en fait, qu'au bout de 10 ans que je leur racontais des trucs, sur certaines choses, entrer dans le sein de l'internationale psychanalytique. Tout ce que j'avais pu raconter, c'était bien sûr. Des beaux exercices, des exercices de style. Eux étaient dans le sérieux. Le sérieux, c'est l'international. Ce qui fait que maintenant, je peux avancer et qu'on l'entende. Qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est pour ça qu'il y a tout un ordre qui fonctionne. À la place où il y aurait ce rapport. Et que c'est là, dans cet ordre, que quelque chose est conséquent comme effet de langage, à savoir désir. Et qu'on pourrait peut-être avancer un tout petit peu et penser, comme disait Clorel, c'est la satisfaction d'un désir. Satisfaction dans quel sens? Moi, je pense que j'en suis encore là. Que personne, que pas tous ces gens qui se buvent, à embrouiller ce que je dis, à en faire. Le bruit. Personne ne s'est encore jamais avisé d'avancer cette chose qui est pourtant la stricte conséquence. Que j'ai articulé de la façon la plus précise. Si mon souvenir est bon, en 57. Même pas, en 55. À propos du rêve de l'injection d'Irma. J'ai pris pour montrer comment on traite un texte de preuve. J'ai bien expliqué ce qu'il y avait d'ambigu, que ce soit là, justement. Mais pas du tout dans l'inconscient, au niveau de ses préoccupations présentes, que Freud interprète ce rêve de désir. Sexuel, même s'il y a toutes les applications de transfert qui lui conviennent. Le terme d'immixtion des sujets, je l'ai avancé en 55, vous vous rendez compte, 17 ans. Hein. Puis il est clair que je le publie pour ça. Je ne vais pas oublier ce que j'étais absolument écœuré de la façon dont ça m'avait pris dans un certain livre sorti sous le titre d'auto-analyse. C'était mon texte. En y remettant de façon à ce que personne n'y comprenne rien. Qu'est-ce que ça fait un rêve? Ça ne satisfait pas le désir. Pour des raisons fondamentales que je ne vais pas me mettre à développer aujourd'hui, parce que ça vaut 4 ou 5 séminaires. Pour la raison qui est simplement celle-ci, et qui est touchable, extraordinaire. Le seul désir fondamental dans le sommeil, c'est le désir de dormir. Vous avez jamais entendu ça? Oui. Moi, c'est dans Freud. Comment est-ce qu'il n'est... Ça ne vient pas tout de suite à votre jugeote. En quoi ça consiste le temps? Ça consiste en ce qui, dans la tétrade, saw none of their things. We saw et le plus de jouir. Faut pas que je leur ai fait vos tableaux, non? Qu'il s'agit de suspendre. C'est pour ça que c'est fait le sommeil. N'importe qui n'a qu'à regarder un animal dormir. Pour se l'apercevoir. Il s'agit de suspendre. Justement, cet individu qui a dans le rapport au corps avec l'univers, de jouir. S'il y a possibilité que ce corps accède au jouir de soi, c'est bien évidemment partout, c'est quand il se cogne un peu, il l'homme a là de petites portes d'entrée, non pas les autres. Il peut en faire un but. Tout un temps qu'il dort, c'est fini. Il s'agit justement de corps, mais il s'enroule, il se met en boule, dormir, c'est une balle dérange. La jouissance, quand même, c'est dérangeant. Finalement, on le dérange. Enfin, tant qu'il dort, il peut espérer ne pas être dérangé. C'est pour ça qu'à partir de là, tout le reste est perdu. Il n'est plus question non plus de semblant. Une vérité, puisque tout ça, ça se tient. C'est la même chose. Il n'y a plus de. Non, voilà. Ce que Freud dit, c'est que le signifiant, lui, continue pendant ce temps-là à cavaler. Hein? C'est bien pour ça que même quand je dors, je prépare mes séminaires. Monsieur Poincaré découvrait les fonctions de tout ça.
Est-ce qu'il y a une pollution? Qui vient de dire?
C'est ça. C'est ça.
Je suis déjà réjoui publiquement que l'une de mes analysées n'a pas, il n'a pas là, mais je suis une personne particulièrement sensible et parler en effet à propos de mon discours de pollution intellectuelle. C'est une dimension très fondamentale, voyez-vous, la pollution. Je ne serais pas probablement pousser les choses jusque-là aujourd'hui, mais vous avez l'air tellement fier d'avoir et surgir que je soupçonne que vous ne devez rien y comprendre. Puisque c'est à la fin. Figurez-vous, monsieur, qui croyait avoir fait là un coup d'éclat, que vous s'accomplissez. C'est dans le sens de ce que j'ai à avancer. C'est à savoir que la pollution dans ce monde, c'est très exactement l'objet dont l'homme. Et vous aussi, prenez votre substance. Et que c'est le devoir de cette pollution qui est l'effet le plus certain de la surface de devoir en faire, son corps en son existence d'un ami. Représentation qui lui regarde. Les chers petits en sont malades. Et je dois vous dire, je ne suis pas non plus moi-même dans cette situation mise à l'aise. Ce que j'essaie de leur démontrer, c'est que ce n'est pas tout à fait impossible de le faire un peu décemment. Grâce à la logique, j'arrive à alors, si vous voulez bien se laisser tenter et leur rendre supportable cette position des occupants en petite âme dans le discours analytique. Me permettre de concevoir que c'est évidemment pas peu de chose que élever cette fonction à cette position semblable est la position clé dans tout discours. C'est déjà, c'est ça, de ce que j'ai toujours essayé de faire sentir comme la résistance, et elle n'est trop compréhensible, de l'analyste a vraiment pour avoir la position du semblant, elle n'est vraiment tenable au niveau du discours scientifique, pour une simple raison, ça ne veut pas se classer. Qui est porté à la position commandement est quelque chose de tout à fait du ordre réel. Autant que tout ce que nous disons réel, c'est la chaleur. C'est la forme, autrement dit, c'est la façon dont il fait le sujet. Parce que dans le discours scientifique, c'est le grand test de l'arrêt qui est là, à la position clé, ça tient. Dans le discours universitaire, c'est le savoir. La difficulté est encore plus grande. À cause d'une espèce de course-circuit, parce que pour faire semblant de savoir, il faut savoir faire semblant. Et ça s'use vite. C'est bien pour ça que, quand j'étais là, là où je reviens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à savoir à Milan, j'avais une assistance, évidemment, beaucoup moins nombreuse que la vôtre, en mettant le cas. Mais qui avait là beaucoup de jeunes, beaucoup de ces jeunes qui sont ce qu'on appelle dans le mouvement. Il y avait même un personnage tout à fait aspettare di nascere ora di statuto che si fu non è la taglia ma presorto se il se il pao la vittima della cappella si fa più la terroge se il se il pao en étant là dans cette boîte ce qu'il veut c'est comme tous ceux qui sont désirés intéressés à un peu par ce bouton j'ai donné le discours universitaire ça alors on a dit que aux unités alors je voudrais qu'on sache un peu mieux comment faire semblant de savoir ça qui en effet c'est respectable et bon pas quand même. Discours universitaire, c'est dur aussi mental qu'un autre. Dans le nord, ce que je marque, c'est que c'est pas le même, parce que c'est vrai, ça est pas le même. C'est une chose qui va être. La place du semblant du mur. Et alors, c'est comme ça que je vais fermer la barre. Mon Dieu, comment faire avec un auditoire nouveau, surtout, s'il peut confondre. Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu, comme ça, que c'était ma place, mon histoire. J'ai commencé par dire que mes écrits, enfin, c'était la publication, peut-être pas que je là-dessus, il y avait quand même. Et alors là, le mot séminaire, bien sûr, comment leur faire comprendre que j'étais forcé de le rappeler. Le séminaire, c'est pas un séminaire, c'est que je les vois tout seul. Depuis des années. Mais qu'il y avait eu autrefois un temps où ça méritait son nom. Il y avait des gens qui intervenaient. Alors c'est ça qui est hors de moi. Je vais être forcé d'en venir là. Et comme sur la route du retour, quelqu'un me pressait pour me dire ah ben, comment est-ce que c'était au temps où c'était comme un séminaire. Bon. Je dis aujourd'hui, je vais leur dire pour la dernière fois que je vous vois, toi, pour la dernière fois, de bon Dieu, quelqu'un vient dire quelque chose là-dessus, Jean-François Leblanc. Je suis très canadien, je ne raconte pas d'histoire, hein, pour l'instant. Ce n'est pas semblant de faire surgir du plan d'une intervention. Je dis simplement que j'ai reçu une lettre qui était d'ailleurs une réponse à une des miennes. Monsieur Recanati qui est là. Tu m'as prouvé à ma grande surprise qu'il avait entendu quelque chose de ce que j'ai dit cette année. Alors je vais lui passer la parole parce qu'il a une parole que plus ou moins trois rapports avec ce que j'ai essayé avec la théorie des ensembles, notamment, n'est-ce pas, et avec le logique mathématique, il va me dire laquelle.
C'est mieux. Extraordinaire.
Moi, je ne marche pas, mais vous allez faire comme moi. Vous allez très souvent.
Oui. Tout ça
c'était pour lui.
Madame, quand le docteur Lacan vient de faire la visite,
Calais
était en fait un simple quelques remarques de commentaire sur trois textes de Pierce que je lui ai remis, non pas tant qu'il ne les connut pas, évidemment, mais parce que ces textes, justement, différaient de ceux à quoi il avait pu, par ailleurs, faire référence. Il s'agissait d'une part de textes de cosmologie et d'autre part de textes ayant rapport à la mathématique. Je vais tout d'abord préciser un peu la teneur de ces trois textes avant d'en venir à la manière dont je pourrais en parler. Quant à la mathématique, Pierce donne une critique des définitions qu'il connaît des ensembles continus. Il examine trois définitions, nommément celle d'Aristote, celle de Kant, celle de Cantor. Il critique tout et en fonction d'un critère unique. Le critère, c'est qu'il voudrait que dans chaque définition soit marqué le fait même de la définition. Puisque dit-il, à définir un ensemble continu, on n'est pas sans le déterminer d'une certaine manière, et ceci est important pour le résultat de la définition, le processus même de la définition doit être marqué quelque part, comme tel. Quant à la cosmologie, Pierre parle d'un problème à peu près similaire, d'une préoccupation similaire, à propos du problème de la genèse de l'univers. On rappelle que c'est l'avant et l'après. On peut accéder à ce qu'il y avait avant en faisant la simple opération analytique qui consiste à retirer à ce qu'il y avait après tout ce qui fait le caractère de cet après. Puisqu'on a pu tirer par là qu'un après rassuré et que précisément, c'est sur le mode de cette rature que se constitue l'après qui ne diffère que par une inscription précise ici sur le mode de la rature mais que de l'avant. Autrement dit, l'avant est en quelque sorte un après, plutôt que l'après est un avant inscrit, et on ne pourra absolument pas déduire l'avant de l'après, parce que l'avant qui est inscrit dans l'après, c'est précisément l'après, et en ce sens, ça ne peut rien avoir avec l'avant, dont le propre est justement de n'être pas l'avant. Autrement dit, c'est l'inscription qui compte. On peut dire que l'avant, ça n'est rien, c'est ce que dit Pierre. Quand il parle de la genèse de l'univers, avant il n'y avait rien, mais ce rien, c'est quand même un rien spécifique, plutôt justement il n'est pas spécifique, parce que de toute façon, il n'est pas inscrit. Et on peut dire que tout ce qu'il y a eu après, c'est rien non plus, mais en comme rien, c'est inscrit. Ce non-inscrit en général, il va retrouver un peu partout, mais pas seulement dans la cosmologie, Pierre s'appelle le temps entier. Et c'est ça, je vais dire quelques mots maintenant. Nous avons le fait, nous avons quand même
le potentiel.
Mais avant de faire, je voudrais dire quelques mots sur ma position ici, qui est évidemment paradoxale. Puisque je suis spécialiste évidemment de rien et pas plus de Pierre que d'un autre, et que tout ce que je vais dire sur cet auteur, qui soit d'autre que ce que je vais parler d'autre, sera ce que je peux reprendre au discours de quel docteur a tout. À ce titre, dans ma parole même, je confère mon statut d'auditeur. Et comment ça va être possible, justement, à l'expliquer dans mon discours à moi, que le fait d'avoir écouté. Ceci pose le problème à qui m'adresser. Car l'évidence, si je m'adresse à ceux qui, comme moi, ont écouté, ça ne servira à rien. Et si je m'adresse à ceux qui n'ont pas écouté, je n'inscrirai le rien, je ne pourrai qu'inscrire le rien dans mon écoute et permettre par là une élaboration qui évidemment s'en servira dans la suite, mais qui n'aura rien à voir avec le rien pur qui est connu. En l'occurrence, ça ne changera rien. Mais c'est parfois sur l'intervention de l'auditeur, on ne dérange rien, que je peux effectivement représenter l'auditoire. Puisque somme toute, toutes les interventions d'Aristote ne sont supposées dans le discours de Parménide. Et que justement, le plus vite c'est terminé, le mieux c'est généralement dans toute intervention d'Aristote. Plutôt qu'on puisse lui-même tenir un véritable discours, il faut qu'à son tour, il y ait un auditeur muet, à qui il y a quoi plus s'identifier, ce qui explique que l'autre Aristote, dans la métaphysique, dit nous platonicien, car c'est après qu'il va pouvoir parler, si on veut après Parménide parler pour l'autre, il peut lui-même commencer à le faire. Oui, c'est un paradoxe, mais comme ce paradoxe n'est pas mon fait, je laisse au docteur la chambre de commencer. Oui, parce que je n'en peux rien dire, forcément. On ne peut pas dire opposer le vide, le zéro, au quelque chose. Car le zéro est quelque chose, c'est bien connu. Le vide représente quelque chose, et puis le vide, il fait partie de ces concepts secondaires. Concept important chez Pierre, que je reverrai un peu dans la suite. Il n'est pas une monade, comme vide inscrit, mais il est relatif. En effet, si l'on pose ce vide, on inscrit. En l'occurrence, l'inscription de l'ensemble vide peut donner ceci.
Allez.
Ceci se reconnaît pour être l'ensemble vide, considéré comme un élément de l'ensemble des parties de l'ensemble vide. Donc, si le vide se constitue comme un, et si on voulait répéter un peu l'opération et faire l'ensemble des parties de l'ensemble des parties de l'ensemble vide, on aurait vu quelque chose comme ça. Ce qui donne à peu près ça. Et ceci se reconnaît pour pouvoir très bien représenter le 2. Aussi bien ceci peut-il représenter le 1. C'est par là qu'on est amené à refaire cette remarque. Que bien sûr, c'est la répétition d'une inexistence qui peut fonder bien les choses, notamment la suite des actions en l'occurrence. Mais ce qui intéresse dans cette remarque, c'est que ce qui s'est fait, ce n'est pas une existence comme telle, non pas exactement, c'est l'inscription d'une existence. En tant qu'une existence que marque de cette inscription. Et c'est ce qui est développé à bien des reprises dans plusieurs textes et je vais en parler. Donc, on rejoint là son propos mathématique. Quand on veut d'ici définir un système où cette inexistence est répétée, il faut préciser et la répéter comme inscrit. Mais pour le départ, il y a une inscription d'une existence. Et ceci est très important pour la logique. Le tenteur universel, tout seul, ne saurait rien définir. Le tenteur universel, pour pire, est quelque chose de secondant, aussi paradoxal que ça paraisse, comme il dit. Il est relatif à quelque chose. Ce qui fonde ce tenteur, c'est la néantisation préalable élastique des variables du propre début. Ainsi, d'un point de vue purement méthodologique, le pire s'attaque à Cantor. Cantor a tort, parce que sa définition du continu renvoie nommément à tous les points de l'ensemble. Pire précise, il faut faire varier la définition d'un point de vue logique. Une ligne ovale n'est continue que parce qu'il est impossible de nier qu'au moins un de ces points doit être vrai ou une façon qui ne caractérise absolument pas l'ensemble. Par exemple, quand il s'agit de tout l'extérieur à l'intérieur, où il faut nécessairement passer par un point du bord. Ici, dans l'exemple d'une approche latérale, on ne peut pas poser comme ça le tenteur universel, il faut passer par une session d'utilisation préalable et qui passe elle-même par une condition préalable. La négation ici est elle-même dirigée en condition. Et l'ensemble des ensembles pertinents de cette condition, en l'occurrence, dans la mesure où il est impossible de nier, etc., est l'ensemble vide qui inscrit la négation comme impossible. Le même type d'exemple pourrait être en topologie éventuellement. Si l'on écoutait pire, le théorème des points fixes devrait s'énoncer comme suit. Je vais l'écrire. Donc, il est impossible de nier que dans une déformation d'un disque sur son bord, au moins un point échappe à la déformation qui l'autorise par le fait même d'y échapper. Le théorème des points fixes, si on le prend par exemple pour quelque chose comme un disque, il s'agit en quelque sorte, il s'agit de déformer de manière continue un disque sur son bord. Il est certain, et c'est donné comme théorème, qu'au moins un point du disque échappe à la déformation, c'est-à-dire reste fixe, et que c'est par le fait qu'il y a ce point qui reste fixe qu'on peut effectuer la déformation générale. Sans quoi ce serait pas possible, mais si c'était enfin, il y a évidemment contradiction. Disons qu'il y a une biais à mettre entre ce point qui échappe à la fonction qui l'autorise.
Ça, c'est une situation démontrée.
Qu'il est en vie.
Je ne démontrerai pas, je démontrerai. D'autre part, ce symbolisme, vous pouvez peut-être comment il est symbolisé par ce qui n'existe plus, ce qui n'est pas capable de formuler, qui est très très ensemble. Qu'il n'y a pas de paix de vie, qu'il n'y a pas d'existence de vie, telle que vie
C'est bien le coup de négation. Certes, mais c'est pas, les deux négations ne sont pas équivalentes, ce n'est pas exactement les mêmes. Et d'autre part, surtout ces coups de négation, même de où elle est inscrite, parce qu'on voit tout, c'est pas la même chose d'affirmer simplement. On aurait pu affirmer, là c'est pour ça que je cite au début la critique du tenteur universel en quelque sorte comme donnée comme ça. Si les produits d'une double négation, cette première négation, d'abord, c'est proche pour une négation érigée comme condition, par exemple, les points ne restent pas fixes, eh bien, il y a un point qui, justement, échappe à cette fonction. Et à ce titre-là, la nécessité d'avoir toutes les inspires, dont Paul était là. Et il faudrait marquer, peut-être d'une manière spécifique, ce que j'ai dit être une impossibilité. Mais en même temps, ici, c'est simplement l'ensemble vide posé comme le seul ensemble fonctionnant pour la fonction de la vitesse. Les impossibles, qui sont ceux qui naissent du potentiel, mais pour s'y opposer, honnêtement, Et dans À l'intérieur des impossibles, on peut dire des choses comme ça. C'est-à-dire, il n'existe pas X tel que non plus de X. Il existe X tel que non plus de X. Mais il fait une opposition de ces deux champs comme fondamentalement opposants. L'un étant l'élément du pur 0, l'autre étant l'élément, je dirais, du 0 de répétition. C'est la même chose.
Vous admettez, par exemple, que je pense que c'est ce que vous avez dit, en disant que le potentiel égale le champ des possibilités comme déterminant la réalité.
Comme déterminant, mais je précise tout de suite, il a dit, c'est ce champ des possibilités qui détermine la possibilité. Mais pas au sens de Hegel, faut faire attention des types lui-même, ça détermine non pas nécessairement, mais potentiellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire nécessairement cette vérité. On remarque que c'est arrivé, on sait que c'est ce potentiel qui a déterminé cette impossibilité. Mais non pas nécessairement, c'est d'accord. Donc, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y avait un
transfert comme ça,
c'est ça. Donc, c'est avec une sorte de considération que Pierre construit le concept de potentiel. C'est donc le lieu où s'inscrivent les impossibilités et la possibilité générale des impossibilités non effectuées, c'est-à-dire non inscrites. C'est le champ des possibilités comme déterminant la possibilité. Mais il ne comporte, je viens de le dire, par rapport aux instructions qui s'y produisent, aucune nécessité, ce qui signifie notamment, pour avoir la dénatrice, que du tout, on ne peut pas rendre compte rationnellement au sens de Hegel, c'est-à-dire nécessairement. Le tout est venu, on peut dire d'où il est venu. On peut simplement le mettre en rapport avec le 0, avec ce qui passe entre le 0 et le 1, mais de dire pourquoi il est venu à ce point. Le potentiel permet ça de définir le paradoxe du continu. Et ça, c'est dans la tête de T, je cite ça, mais en fait, je ne vais pas regarder bien près, je ne le développerai pas. Si un point d'un ensemble continu potentiel se voit conférer une détermination précise, une inscription, une existence réelle, alors la continuité elle-même est rompue. Et ceci, c'était intéressant, non pas du point de vue du continu, mais du point de vue du potentiel. Et le potentiel existe vraiment comme potentiel. Et dès lors qu'il s'inscrit d'une manière ou d'une autre, il n'est évidemment plus potentiel, c'est-à-dire qu'il est lui-même produit d'un inconnu, qui est parti de lui-même.
Là, quand on attend.
Pour ce qui est de la cosmologie, le zéro absolu, le pur en néant, comme dit, est différent du zéro qui s'affecte dans la suite des entiers. Une étoile, ce zéro qui s'affecte dans la suite des entiers,
plus
l'ombre
en général du temps
qui reviendrait, donc
que le zéro
absolu. Rapporter ça aux entiers, on n'a jamais caché chez eux, à plus que pareil. En comprenant ces deux dimensions, l'une potentielle, l'autre, si l'on veut temporelle, plutôt une dimension du zéro absolu et une dimension du zéro de répétition, c'est par exemple dès le début de l'évoquer empirique. Et puis là-dessus, je voudrais faire un petit mot pour montrer comment on peut le dégager.
Et très bien, comme il prévient.
Avant de je mets ça, et après j'en viens à la sémiotique de Pierre en rapport avec tout ça. Les objets de la psychologie empirique, c'est un premier point qu'on a fait exprès à chaque fois d'évacuer, c'est les signes, il n'y a rien d'autre, c'est le système des signes. Il s'agit d'une extension, on peut dire, du système quaternaire de Port-Royal, tel que sommes tous sociaux aussi, on est une extension à la limite. La chose, oui, la chose comme chose et comme représentation, le signe comme chose et comme signe, l'objet du signe comme signe, étant la chose comme représentation. C'est la même chose que les sociaux le disaient, mais je ne le développerai pas, le signe comme concept et comme image explicite. Seulement, on a évacué avec la scolastique le problème en général de la chose en soi, et on a même été jusqu'à voir dans le monde, et ça avec toutes les théories du droit libre du monde, le signe est la pensée. D'ailleurs, on aboutit à quelque chose comme ça. Le monde, comme représentation, en tant que monde le connaît comme représentation, remplace la chose, dans le système quaternaire du signe, et la pensée du monde, en général, remplace la représentation. C'est quoi mettre face à face, pensée du monde, monde de pensée. Or, il est évident que la pensée du monde et le monde de pensée, qui sert peut-être par face à côté, c'est la même chose. Alors, il y a un problème pour le système quaternaire, parce qu'il y a une vérité irréductible dans le système quaternaire. Il faut soit l'abandonner, soit le changer. On sait que qui l'abandonne, en justement établissant une espèce d'identité entre la pensée du monde et le monde de la pensée. Quand alors, il le change. Ce qu'il dit, c'est, et je m'excuse de me l'absenter un peu sur cette introduction, ce qu'ils disent des représentations et des idées ne représentent pas les choses, elles se représentent après. Ainsi, les idées plus complexes représentent les plus simples. Il y a des facultés, par exemple, de représentation des plus après, et c'est ce développé des plus utopiques, qui est à peu près, pour mon avis, une hiérarchie des idées des facultés. Mais ce sur quoi je voudrais justement appuyer un peu, et qui n'est pas ce qui n'a pas été remarqué chez Locke, et qui est quelque chose dans le plus intéressant, puisque ça permet qu'on y aille et que qu'on y aille par la précède en quelque sorte, c'est qu'il y a une autre faculté pour Locke qui permet tout ça. Parce que comment ça se passe? Ça fonctionne tout seul, apparemment. Il faut quelque chose pour que ça fonctionne. Et il y a une nouvelle faculté, une nouvelle opération, qui l'appelle, et qu'on n'a jamais repéré, parce que ce n'est pas dans les études classiques, mais toujours dans les notes. Observation, l'observation. C'est quelque chose qui fonctionne tout seul, qui marche à tous les niveaux, qui se retrouve partout, et qui est aussi imparfait à tous les éléments. Quelque chose d'assez incompréhensible.
Et
qui est à la fois le processus de la transformation, et le milieu d'éléments en général du transformé. C'est à la fois le milieu, par cette observation en quelque sorte, une idée simple, se transforme en image d'elle-même, c'est-à-dire en idée complète, puisque son objectivité est placée à ses côtés dans l'idée. Et dans cette idée générale, par où elle est transformée, il y a une inscription, il y a comme notation l'inscription de sa transformation. C'est-à-dire l'idée, une fois qu'elle est transformée, c'est en quelque sorte qu'elle est inscrite. C'est pour ça qu'elle devient une idée complexe et non plus une idée simple. Alors tout le problème à cet endroit, c'est qu'est-ce qui rend ça possible? Soit qu'est-ce qu'il y avait au départ? Qu'est-ce qui se transforme au départ? À partir de quoi on transforme pour obtenir la première chose? Qu'est-ce qui est l'avant-premier, en quelque sorte? Et là, je le pose dans ces termes, quand il parle de sensation originaire, d'une réflexion originaire. Une réflexion est originaire, qu'est-ce qui reste? Soit pré-originaire, soit qu'elle est pré-originaire, soit qu'est-ce qui permet, à proprement parler, qu'est-ce qui permet cette activité. Et là, il y a Fourier qui prend la relève. Sa méthode est absolument exemplaire. Il va permettre quelque chose qu'il a vu chez l'homme. De quelque chose d'inatteignable en lui donnant un nom, en le faisant fonctionner comme une inconnue dans une équation. Et par la suite, quand des auteurs ont voulu critiquer le Fourier, ils ont dit que son système n'était pas du tout, justement, la logique, c'était de la logique profondément. S'il avait fait un système logique, un système où il n'y avait pas de contenu, etc., mais justement, c'est là l'intérêt qu'on voit. Et notamment cette tentation, dont il dit que tout dérive, au moins dans un de ses traités majeurs, cette tentation-là, finalement, n'est rien. À aucun moment, il ne l'a définie précisément. Au contraire, tout le développement qu'il en donne, tout ce qu'il montre en dérivé, est une certaine de contribution à sa définition. Mais ce qui permet, à proprement parler, de tout le reste en dérive, tout ce qui est à proprement parler des attributs de la tentation, tout ce qui permet cette attribution, c'est ce qu'il indique comme l'élément zéro, qui est toujours donné au départ, toujours donné dans la tentation, et donc il faut savoir ce qu'il fait, et on va s'interroger avec lui. Il va caractériser, pour essayer d'atteindre cet élément irréductible, tout ce qui se passe avec l'aide de cet élément, mais avec plus que cet élément. Réellement, on dit tout ce qui se passe dans l'environnement, avec ça, on va pouvoir arriver à voir ce qui compte véritablement l'originalité de la tentation, si tant est que c'est la tentation qui dérive tout ce qui se passe dans l'environnement. Pour le propre de l'environnement, dit-il, et ce, dans son premier essai, j'insiste, parce qu'il y a une petite divergence après, il s'est éloigné de cette idée qui était évidemment son originalité la plus grande. Le propre de l'environnement, c'est l'ordre. C'est la liaison en général. Liaison comme, liaison des idées, liaison des signes, liaison des besoins. En fait, c'est toujours une liaison des signes, c'est toujours la même chose. Chez l'homme, l'ordre fonctionne tout seul, et j'en explique un peu. Tandis que chez les êtres, il faut qu'on mette l'ordre en branle, une impulsion extérieure ponctuelle. Et qu'on y apprécie, entre les hommes et les êtres, et c'est une assez belle pratique, entre les hommes et les êtres, il y a les imbéciles et les... Les uns n'arrivent pas à accrocher l'ordre, il s'agit des imbéciles, qui, systématiquement, ils n'arrivent pas à accrocher l'or. Et les autres n'arrivent plus à s'en détacher. Eux, ils sont complètement noyés dans l'or, ils n'arrivent plus à prendre de distance, L'or, en général, c'est ce qui permet de passer d'un signe à l'autre. C'est la possibilité d'avoir une idée de la frontière entre le signe. Et qu'on y a une conception du signe comme étant toujours un propre, toujours une métaphore, et il le dit nommément cette fois dans un cours d'études, où il fait l'apologie des propres. Reprenons peut-être, je n'en suis pas sûr, les termes de quotidien. Puisque j'en ai dit que pour lui, un signe, c'est ce qui vient remplir l'intervalle entre deux autres signes. Dans ce sens, dans un signe, quartier est considéré, ce sont les deux autres signes limitrophes, au moins deux qui sont considérés, mais pas comme signes, en tant qu'ils vont entraîner une représentation, du point de vue de leur bord à eux, c'est-à-dire du point de vue formel. Et il précise donc que ça ne peut pas être, à proprement parler, une représentation uniquement des signes, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de représentation formelle, il n'y a pas de représentation abstraite, il y a toujours une représentation qui représente une représentation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une médiatisation de la représentation de signes. Il n'y a jamais une immédiatisation du contenu, par exemple. Je l'ai dit lui-même, l'image d'une perception, la répétition, les deux, la répétition, la destination, c'est la même chose. On ne peut pas différencier une perception et son image. Et pareil, il y a la critique de toute la théorie antérieure. Donc l'homme, c'est ce que le signe représente en tant que le signe qui constitue un intervalle entre deux signes. Seulement, les signes en général sont censés, par toutes les théories dont Eric Montilla, représenter quelque chose. Et ça, ça lui fait évidemment problème, par exemple, c'est particulier. Comment se fait la liaison entre le signe formel et sa référence en général? Cette liaison elle-même, qui Montilla pour s'en débarrasser, elle dérive de l'inconnu, elle dérive de la sensation. Alors, l'inconnu est déjà une relation entre le signe comme événement et le signe comme inscription de l'événement. C'est un peu plus que ça qu'on dit à qui, c'est des types de trafic pour les déjets qui affirment ça comme ça, et c'est pas mal. Et même de dire si lui était là,
il est le même âge que j'avais commencé à écrire à tout le long des trucs, que chacun a fait comme il est, directement dénoncé. Je reproduis le
Entre le sujet dénoncé et le sujet de dénonciation, c'est dans les fondements de la psychologie de Mendeleïev, lui montre à peu près que à se représenter le moi, dans la mesure où dans toute représentation il y a déjà un moi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y en a deux. Si on essaie de se représenter le jeu, ça veut dire qu'il y en a deux, pas immédiatement il y en a deux, c'est-à-dire que immédiatement il n'y en a jamais un. Il n'y en a jamais un, c'est bien. Pour qu'on y a l'ordre des signes, en tant que l'ordre des signes, et l'ordre de ce décalage, a comme modèle d'espace qui dit pour l'inventionnel du temps. Et je ne m'étale pas là. Le temps, on peut dire que ce n'est pas répétition infinie des ponctualités. La ponctualité comme temps zéro. Mais le même problème que plus haut se pose, ce n'est pas la même ponctualité, celle qui se répète dans le temps, et celle dont le temps est. La ponctualité zéro, celle dont on a issu, la ponctualité zéro, comme transparence, précisément, entre l'inscription et l'événement. La ponctualité qui s'appelle dans le temps, toujours pour Condillac, est relativisée à être considérée dans le temps, comme cette ponctualité-là, présente, passée ou à venir. Elle aussi est considérée du point de vue de ses ordres, du point de vue de sa frontière. Le temps, plutôt qu'une série de ponctualités, est donc la série des frontières interponctuelles, en tant que la frontière, justement, le pointage des bords respectifs de deux ponctualités ou chacune de deux signes. Il y a donc la même différence entre la ponctualité absolue et le temps qu'entre l'ensemble vide et l'ensemble de ses parties. C'est l'inscription du zéro qui est l'élément de celui-ci, de même que c'est l'inscription de la ponctualité qui est l'élément du temps. Ainsi, il y a une faille qui est donnée au départ, et que même le Liron essayait peut-être le mieux de servir. Le système des signes, c'est que la répétition infinie de cette faille, en tant que telle, cette faille, et cela se répète dans tous les systèmes des empiriques, elle sort de l'expérience et de l'investigation de Joycott. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Qu'on dit à tous, c'est-à-dire qu'il rarement parle de la nature humaine à un moment. En disant, je vous demanderais bien comment au début ça se fait, cette relation, c'est sort. Pourquoi, puisque justement il est raté, l'ordre de l'exception et l'événement, pourquoi, puisque c'est raté, puisque ça ne colle pas, pourquoi quand même ça existe? Pourquoi il y a une inscription de ce qui n'est que du zéro? C'est évidemment son problème, et à ce moment-là, il répond après avoir fait un petit morceau par jour, j'en sais rien, c'est la nature humaine. C'est cette phrase en général qui permet l'automaticité du système de signes, selon Condillac. Donc il a dit que le système de signes, là, ça marche tout seul. Tandis que dans le traité des animaux, il raconte des tas de trucs pour montrer comment chez les bêtes, il y a également un système de signes, et donc il y a la dépendance de tous les objets extérieurs. C'est le moment où vous pouvez l'oublier. On rejoint par là la sémiotique de Peirce, dont on n'était pas. Peirce appelle Phanéron, du mot grec Phanéron, l'ensemble de tout ce qui est présent à l'esprit, celui-là, au présent de Phanéron, réel ou pas, immédiatement observable. Et par là, décompose les éléments de Phanéron. Il y a trois éléments dans Phanéron indissociables, qu'il appelle. D'une part, ce qu'on pourrait traduire par le mouvement, la monade en général, je crois qu'il emploie le mot monade, pardon, élément complet en lui-même. D'autre part, le second dent, forme statique, opposition, tension statique entre deux éléments. C'est-à-dire que chaque élément immédiatement évoque ses tombeaux par les trois éléments là-dessus. Et c'est en vecteur un endroit, un ensemble absolument dissociable. Et le plus important, c'est le quartien, élément immédiatement relatif, à la fois un premier et un troisième. Et bien précis, toute continuité, tout procès en général, relève de la ternarité. À partir de là, à partir de cette conception de la ternarité, qu'on peut montrer, qui dérivait de cette théorie astronomique qu'il a produit au début de sa vie, mais en fait, je n'en dis mot. Donc, à partir de cette ternarité, on construit une logique qui se spécifie en sémiotique, la logique sémiotique, la sémiotique elle-même se spécifie à un certain niveau comme rhétorique. Et ça, c'est important pour Pierre. Tout tient dans sa définition du signe en général, le signe il appelle revenant quand même. Je suis désolé, c'est quelque chose de revenant quand même. Qui, pour quelqu'un, qui a lieu une autre chose, d'un certain point de vue, ou d'une certaine manière. Là-dedans, il y a quatre éléments. Pour quelqu'un, c'est le premier, et je vais l'écrire. Cela signifie que le signe fait dans l'esprit du destinataire est un signe plus équivalent, ou même plus développé. Le deuxième point découle de celui-là, la réception du signe est donc un deuxième signe, fonctionnant comme interprétant. Troisièmement, la chose dont le signe tient lieu est dite son objet. C'est ces trois éléments-là qui seront les trois sommets du triangle sémiotique. Le quatrième terme, qui vient, et plus distinct, mais non moins
intéressant. Non, c'est parce qu'il y a des salons.
Le quatrième terme, plus distinct, c'est ce que Pierre s'appelle le moindre. Le signe tient lieu de l'objet, non absolument, mais en référence à une échelle guidée appelée le ground, c'est-à-dire le sol, le fond de la relation du signe et de l'objet. Ces quatre termes ensemble définissent trois relations. Et ces trois relations sont les objets respectifs des trois branches de la sémiotique. Première relation, la relation signe-fond, signe-ground. C'est la grammaire spéculative du pied. Il s'agit de reconnaître. Il s'agit de reconnaître ce qui doit être au vrai du signe pour avoir un sens. L'idée en général est la focalisation du représentant sur un objet déterminé selon le ground ou le point de vue. On voit donc que la signification s'enlève en quelque sorte sur un fond différencié. Et que le ground, la détermination du ground, c'est presque la détermination du premier frontière qui détermine un objet. Tout ceci sur le potentiel. C'est-à-dire que le ground en général, c'est déjà le potentiel. De même, le représentant est par rapport à son fond la détermination d'un certain point de vue qui commence le rapport à l'objet. Le ground est donc l'espace préliminaire de l'inscription. La deuxième représentation, la deuxième relation, représentant objet, c'est le domaine de la logique pure pour Pierre. C'est la science de ce qui doit être au vrai du représentant pour qu'il puisse tenir lieu d'un objet. La troisième, la plus importante pour ce que nous venons d'expliquer, c'est la relation entre le représentant et l'interprétant. que Pierre appelle, avec génie, la rhétorique pure, qui reconnaît les lois, ça fonctionne au niveau des lois, selon lesquelles un signe donne naissance à un autre signe qu'il développe, selon le processus des interprétants pour avoir. Et cette question de la rhétorique pure, Pierre s'aborde à l'aide de son client le stéréotype. Représente à même, interprétant, l'objet. Je vais préciser chacun des termes pour vous dire que.
Miroir.
Je suis prêt pour ce qui est de cette relation. Le représente à même, premier, a une relation finitive à un deuxième, l'objet. L'objet est donc deuxième, le signe est donné d'abord. Mais cette relation peut déterminer un troisième, l'interprétant, à avoir la même relation à son objet que lui-même entretient. Autrement dit, la relation de l'interprétant avec l'objet est commandée à être, ou pas la relation du représentant avec l'objet, à être la même relation. La même au point de vue de l'ordre, mais différente cependant. Différente, c'est-à-dire plus spécifiée. C'est-à-dire d'une certaine manière qu'on a un peu réduit le champ de possibilité de ce signe divin. Et comme ça, ça continue à l'infini, on le réduit plus en plus, on ne voit pas. Le voir des actions ici. Il détermine la relation du représentant à l'objet lui-même. Et la représentation du représentant à l'objet détermine comme répétition la relation du représentant à l'objet, qui détermine comme répétition elle-même. Par exemple, le représentant d'un objet détermine interprétant objet. Mais d'une certaine manière, on peut dire, Pierre le dit, que l'objet de la relation entre l'interprétant et l'objet, ce n'est pas exactement l'objet qui est objet de l'interprétant, c'est l'ensemble de cette relation. C'est-à-dire d'une part que tout ça c'est l'objet de ça, et tout d'autre part, ça, ça doit répéter ça. Ça doit le répéter en général dans la forme et l'avoir pour objet. Donc on va prendre un exemple, puis on va prendre un exemple. Alors, le problème, c'est le début, c'est ce qui se passe entre le représentant et l'objet. Alors justement, il est impossible de rien dire de ce qui se passe là, il est impossible de revenir de ce qui se passe là. Tout ce qu'on sait, c'est que ça, ce qui se passe là-dedans entre les deux, ça entraîne tout le reste que je vais finir par inscrire le reste, parce que ça, ça continue à l'infini. Mais on veut savoir, c'est pour que ça, ça ait du sens, le processus de modification, il se fait à partir de là. Pour que ça, ça ait du sens, d'une manière ou d'une autre, il faut nécessairement que du rapport, si on prend l'objet en tant que justice, et si on prend le représentant comme étant balance, il faut justement que cette relation-là, qui en soi, on ne sait rien, elle soit interprétée par ces interprétants. Cet interprétant pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être égalité. Et à ce titre-là, la relation générale, c'est-à-dire de l'interprétant à ici, va être à bien interprétée par un deuxième interprétant. On pourra mettre le ministre, on pourra mettre ce qu'on voudra, et ça continue sans arrêt. C'est-à-dire qu'au départ, il y a tout qui est donné, c'est qu'il y a une espèce de point, un point qui est choisi à l'intérieur d'un point différencié, et à partir de là, il y a une tentative de ce point, selon la possibilité de ce point, à partir d'un premier écart qui est donné dans le point. Le terme sémiotique, on le voit, c'est très clair, reproduit la même relation fermée que vous aviez cité à propos des armoiries des Borromées. C'est-à-dire, avec Pierre, je ne dis pas qu'il ne produit pas les armoiries des Borromées, mais ils ont fait les mêmes termes. Les trois pôles sont liés par cette relation, d'une manière qui n'admet pas de relation duelle multiple, mais d'une triade réductible. Je le dis, l'interprétant ne peut avoir une relation duelle à l'objet, mais à la relation de commande telle du signe-objet, qui ne peut avoir cependant identique, mais dégénéré. La relation signe-objet sera le propre objet de l'interprétant comme signe. Donc le triangle se développe en chaîne comme interprétation interminable et le mot de pied, je vais prendre la fiche interprétation interminable de l'expression. Et à chaque fois, c'est qu'on pourra faire du moins quand on est dans le lieu, c'est même qui est pris comme objet de nouvelles interprétations à chaque fois. Ceci qui est là tant pour étudier en quelque sorte, se doit affirmer comme objet ensuite pour une nouvelle interprétation. Et ce triangle continue à l'infini. Et au point de vue de ça, il y a un moment de le faire, un moment de le faire. exemple que j'ai pris, la relation égalité justice est de même ordre que la relation balance justice, mais ce n'est pourtant pas la même. Égalité existe non seulement mais aussi le rapport balance justice. Alors pour revenir à l'autre par exemple, on voit que justement ceci est pris comme objet de l'interprétation, mais ce qui est nouveau en quelque sorte dans le point de vue terminal, dans le résultat de l'interprétation, c'est que l'inscription de l'objet y est marquée comme tel. Parce que justement le rapport en général balance justice est mis à côté de l'objet lui-même, ça va justement. Quel est le modèle du processus d'identification en tant qu'il est interminal? La première étape, celui qui est donné par un premier trait à l'intérieur du ground, représente un même objet. La première étape naît une série d'autres, et l'élément plus représentant l'étape était ce ground analogue au 0. Ici encore surgit la double fonction de vie. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'il y aurait peut-être des tas d'exemples à prendre, et ça aussi bien un peu partie dans ces. C'est un peu partout dans toutes ces théories, j'ai écrit dans Péris, on aurait pu prendre un peu n'importe quoi. Vous avez vraiment changé une petite peu à plus et que vous me donnez pour faire. On peut multiplier ces exemples, mais ce ne serait que s'en tenir aux commentaires. Lacan a dit que son discours permettait de redonner naissance au discours plus ancien. C'est certainement le premier truc qu'on peut en particulier. Mais le repérage de ce type de produit en général comme frayage, la foule de pièces par exemple, c'est encore que l'inscription de ce qu'on fait jusque-là pour l'hiver, jusque-là, jusqu'à pierre, jusque-là. Jusqu'à jusque-là du zéro, et là on suit la fini, c'est la suite à cette suite, et c'est jusqu'à ça.
Je trouve que celle que vous bien retenir est particulièrement satisfaisante, parce que vous puissiez voir aujourd'hui dans la